Ça peut être plusieurs choses. Il y a plusieurs types d'acteurs privés qui prennent de façon croissante le contrôle de terres, en particulier dans les pays du Sud, là où les conditions le permettent, c'est-à-dire où il y a moins de contrôle par les instances judiciaires, où la politique a tendance aussi à privilégier le profit immédiat en bradant des terres, et ce qui est contraire à l'intérêt des populations qui vivent sur place. Il existe, je disais, du coup, plusieurs acteurs. Ça peut être des entreprises agricoles, minières, des plutôt instances financières, fonds de spéculation, fonds de pension, ce genre d'acteurs qui disposent de sommes très importantes qui leur permettent d'acquérir des terres, mais plutôt dans l'idée de faire fructifier un capital, du coup, et dans l'idée d'avoir un investissement rentable sur le long terme.
Et souvent via des filiales ?
Alors pour les entreprises qui sont dans l'économie réelle, donc du coup pas des fonds spéculatifs, c'est assez souvent le cas. C'est souvent des multinationales, donc du coup qui ont des structures très complexes, des filiales dans plusieurs parties du monde et qui s'implantent sur un territoire pour capter des ressources et pour les redistribuer ensuite vers la maison mère ou d'autres filiales de transformation. Le cas qu'on a traité particulièrement aujourd'hui, c'est celui d'une société camerounaise qui s'appelle la Soka Palm, qui est détenue en partie par Bolloré, mais aussi par d'autres sociétés, notamment luxembourgeoises et belges, et qui, après avoir été une société d'État dans les années 60, a été privatisée au moment des plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale dans les années 90, et depuis qui obéit à une logique purement de profit et non pas d'intérêt général. Du coup, cette société possède à peu près 80 000 hectares. Enfin, quand je dis possède, c'est qu'elle a une concession dessus qui a une durée limitée mais extrêmement longue. Ça peut être 70-80 ans. C'est assez fréquemment le cas. L'État a fourni, par le biais d'une convention, ses terres à la société privée, qui du coup règne en maître dessus jusqu'à posséder ses propres services de sécurité, sans qu'il y ait de contrôle de la part de l'État et avec des conséquences dramatiques pour les populations qui vivent sur place.
Vous parliez du Cameroun à l'instant. Les principaux pays concernés sont des pays africains ?
Il y a l'Afrique, mais il y a aussi beaucoup l'Amérique du Sud. Par exemple, le Brésil, même si c'est un pays dont on parle beaucoup pour son essor économique, connaît aussi des cas d'accaparement de terres. C'est des étendues énormes. Mais en Amérique du Sud aussi, ce phénomène de mise à disposition pour des très longues durées de milliers, voire centaines de milliers d'hectares à des multinationales est assez fréquent.
Et ce processus d'appropriation des terres cultivables, est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe réellement les gouvernements, les politiques d'un point de vue général ? Une prise de conscience de ce phénomène ?
Alors il y a plusieurs choses. Il y a une société civile qui est mobilisée sur ces enjeux et qui essaye de les faire connaître aux citoyens justement pour peser dans la balance politique. Maintenant, au niveau local, on a des gouvernants qui peuvent être soit mal informés et ne pas mesurer à quel point ils mettent en péril l'équilibre local, c'est-à-dire qu'on a une idéologie libérale qui prévaut et qui estime que quand on fait des plantations massives, forcément ça va bénéficier aux locaux, ça va fournir de l'emploi. Et on oublie complètement de considérer le préjudice écologique tout d'abord, avec des forêts qui sont complètement ratiboisées, le préjudice social qui est que ces personnes-là du coup sont soit complètement déplacées sans compensation, soit qui perdent leurs ressources, qui perdent leurs petites exploitations agricoles.
Donc ils ne bénéficient en rien finalement ?
Non, de l'activité de la multinationale. Il y a parfois des locaux qui sont employés, mais c'est généralement des emplois extrêmement précaires, mal payés, et qui ne permettent pas de se projeter dans l'avenir, qui ne fournissent aucune formation. Et on a aussi une mise en concurrence, c'est le cas dans l'activité de la Soka Palm, d'habitants et de travailleurs qui sont importés, c'est-à-dire que la Soka Palm fait venir à peu près 90% de ses travailleurs d'autres régions ou d'autres pays et n'emploie pas les gens qui habitaient auparavant sur place. Donc ça crée des conflits sociaux au niveau local extrêmement importants.
Alors quel type de réponse, par exemple juridique, quel levier, quel bonne pratique contre ces formes finalement d'exploitation ?
Mais il faut savoir qu'en termes juridiques, il y a un vide immense. Puisque au niveau local, c'est très difficile pour les populations de se faire entendre, soit parce qu'elles n'ont pas la connaissance de leurs droits, sachant qu'il y a bien souvent une fracture entre les droits coutumiers, selon lesquels les personnes qui résident sur ces endroits détiennent la terre, et entre les droits modernes qui estiment que la terre relève du domaine national et donc que c'est à l'État de l'affecter à qui bon lui semble. Ça, c'est un premier niveau, et donc ces personnes-là ont beaucoup de mal à se faire entendre déjà au niveau du droit, mettons camerounais dans le cas de l'assaut Capelme, sachant que c'est souvent des pays où le système judiciaire est défaillant. Par ailleurs,
parfois corrompu
en plus, et c'est pour qu'on puisse faire condamner de telles pratiques en France, il faudrait qu'il y ait une relation juridique qui soit établie entre la filiale qui opère au Cameroun et la société mère qui est basée en France. Et pour le moment, ça n'existe pas. Il n'y a pas de responsabilité juridique qui lie une filiale à la société mère. Sherpa essaie de pousser dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on travaille sur des cas comme celui de la Capelme ou la filiale qui est contrôlée évidemment par la société mère sur le plan décisionnel, qui reverse ses profits à la société mère, donc il y a une relation commerciale évidente, mais pas de relation juridique. On essaye à la fois par des actions judiciaires de ce type, par des actions de lobby, de recherche, de proposer et d'inviter les décideurs politiques à prendre des mesures dans ce sens-là. Mais on est vraiment au démarrage de ces préoccupations. La question de la RSE qui est fréquemment détournée à des fins commerciales.
Responsabilité sociale de l'entreprise.
Oui, voilà, responsabilité sociale des entreprises est souvent détournée à des fins marketing. Mais c'est un enjeu qui est présent dans le monde politique, dans le monde médiatique depuis quelques années seulement. C'est pas un sujet ancien et il y a énormément de choses à faire dans ce sens-là.
Mais que dit le droit international? Finalement, c'est assez flou et pas contraignant, en fait.
Non, en termes de droit international, la seule instance pénale, en fait, c'est la Cour pénale internationale qui juge exclusivement les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Au niveau crimes économiques, comme on les appelle, c'est-à-dire tout ce qui peut être violation commise par des acteurs économiques ou détournement de fonds, corruption commise par des acteurs politiques ou économiques, il n'y a pas d'instance au niveau international qui permet d'appréhender ces faits. Le système global, la mondialisation, comme on dit, s'est développé sans qu'il y ait en face de mécanismes de régulation sur les mêmes échelles. Donc on est dans
un garde-fou.
Il
n'y
a pas de garde-fou.
La Banque mondiale, la FAO, l'ONU.
Ce ne sont pas des instances judiciaires. L'OCDE, on peut s'en servir parce qu'ils ont écrit un texte qui s'appelle Principe directeur de l'OCDE à l'intention des multinationales et qui sert en gros de ligne directrice au comportement des multinationales à l'étranger. Donc il y a des recommandations en termes de fiscalité, de développement local, de participation à ce développement par l'entreprise, mais c'est sur la base volontaire. Tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale des entreprises à l'heure actuelle se fait sur une base volontaire, il n'y a absolument pas d'outils contraignants. Donc c'est ce qui crée un terrain favorable pour l'impunité qu'on constate à l'heure actuelle.
Finalement, il y a une dynamique citoyenne, mais il n'y a pas de volonté politique.
Il n'y a pas de volonté politique dans les systèmes majoritaires qu'on voit actuels. Que ce soit la France ou l'Europe, on est plutôt sous l'égide du libéralisme. C'est pas dit que dans d'autres formes de gouvernement, d'autres partis, il n'y ait pas des préoccupations de ce style, mais l'idéologie qui domine à l'heure actuelle, c'est celle du libéralisme et donc de la dérégulation. Nous, on milite au contraire pour qu'il y ait une régulation croissante et qu'on contrôle cette activité des multinationales qui échappe pour le moment à tout contrôle, et y compris à celui des États.
Sachant qu'en vous écoutant ce soir lors de cet apéro thématique, on se rend bien compte que c'est une question finalement fondamentale du 21e siècle. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des échanges avec les participants ce soir ?
Et j'ai trouvé ça assez riche. Je pense que les gens ont bien conscience des enjeux.
C'est une thématique finalement assez méconnue.
Oui, assez. Après, c'est quand même un enjeu fondamental dans la mesure où l'ampleur du phénomène est particulièrement inquiétant, et puis la rapidité aussi à laquelle il se développe. Dans les dernières années, il y a eu des millions d'hectares qui ont été accaparés par le secteur privé. Et on ne parle pas seulement d'agriculture dans ces cas-là. Enfin, quand on possède une terre, il y a aussi l'eau qui va avec, qui est indispensable pour toute forme de vie. Il y a les ressources minières. Donc c'est un enjeu stratégique éminent. Et je pense que les investisseurs ne s'y trompent pas en se ruant dessus, quoi. C'est vraiment un marché bien juteux pour l'avenir. Mais il y a des populations qui vivent là-dessus et qui pâtissent de cet accaparement. Donc du coup, c'est essentiel qu'on ait une mobilisation citoyenne et donc qu'on arrive à mettre au courant le maximum de gens possible, que ces personnes se
saisissent.
Notamment les médias qui permettent de toucher sur une échelle bien plus grande des personnes qui vont demander des comptes au gouvernement, qui vont pousser dans le sens d'une régulation et d'un traitement de ce problème.
Juste pour conclure, vous êtes chargée de communication de Sherpa. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette organisation ?
Oui, Sherpa, c'est une petite association basée à Paris qui a été créée en 2001 par William Bourdon. et dont l'objet est de protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques. Donc les crimes économiques, j'en ai un peu parlé, ça peut être tout ce qui est violation commise par des acteurs économiques, tout ce qui est flux financiers illicites, type évasion fiscale, utilisation des paradis fiscaux, corruption, etc. On fonctionne de plusieurs manières, notamment par le biais d'actions judiciaires contre les acteurs qui se sont rendus coupables de violations, mais aussi par des travaux de recherche et ensuite de plaidoyer pour porter des propositions au niveau des décideurs politiques et pour arriver à une meilleure prise en compte des enjeux qui sont posés aujourd'hui par la mondialisation.
Avec notamment une pétition qui est en ligne actuellement sur votre site.
Oui, alors on est un peu connu pour l'affaire des biens mal acquis en particulier. Il faut savoir que le fils du président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, a été nommé peu après les perquisitions retentissantes dans ses appartements délégués permanents adjoints auprès de l'UNESCO. C'est un poste qui peut lui conférer une immunité diplomatique. Et si le ministère des Affaires étrangères venait à entériner cette immunité, ça pourrait mettre fin à ce volet-là de l'enquête et de l'affaire des biens mal acquis, sachant que c'est vraiment le personnage le plus scandaleux qu'on vise, quoi. Il brade des millions et des millions, alors que dans son pays, la majorité des gens ne vivent pas avec un dollar par jour, quoi. Donc on a mis en ligne une pétition où on demande aux citoyens d'interpeller le ministère des Affaires étrangères pour lui demander de refuser d'accorder un titre de séjour diplomatique à Théodorine Obiang. C'est un mécanisme d'ailleurs que Pierre Falcone avait tenté d'utiliser dans l'affaire des Angola Gate. Et donc on milite plus largement pour que les organisations internationales type UNESCO puissent pas être utilisées aux fins de mettre un frein à la justice, quoi.
Radio Solidaire.